Bonsoir à tous, vous êtes sur l'émission Le Monde Merveilleux du Travail. Ce soir, le syndicat de l'industrie informatique de la CNT qui va vous parler de l'informatique en lien avec l'éducation. Pour poursuivre un petit peu avec le thème qu'on avait déjà abordé le mois dernier qui était l'informatique dans une société libertaire. Là, plus précisément, on va essayer de réfléchir, à débattre sur la notion de... d'éducation, alors plutôt d'instruction en fait, on va parler de, au sens éducation nationale, hein, c'est plus instruction qu'il faudrait utiliser comme terme, en lien avec l'informatique. Donc pour ça, nous avons Colin à la technique.
Que nous bonsoir tout le monde.
Clément du syndicat.
Bonsoir.
Moi-même, Guillaume du syndicat. Et Morgane qui nous vient de la petite bibliothèque ronde de Clamart, où notamment on utilise pas mal d'outils numériques, informatiques, etc., qui va nous expliquer un petit peu... Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la petite bibliothèque ronde de Clamart? Et on va voir ce qu'ils font comme, comme projet, comme activité autour du numérique. Je te laisse te présenter.
Ouais.
Présenter la petite bibliothèque ronde.
Ok, ben moi c'est Morgane, bonsoir. Donc je suis à la petite bibliothèque ronde de Clamart, qui est une bibliothèque associative, donc complètement détachée de, du réseau des bibliothèques de la ville de Clamart. Et en fait, on a une pratique un peu spéciale, puisqu'on est une des rares bibliothèques à proposer autant de culture littéraire papier que de support numérique. Voilà, on a été équipé, on est équipé depuis 3 ans d'une offre informatique spécialement pour les enfants, puisqu'on est une bibliothèque exclusivement jeunesse. Donc, ce qu'on appelle exclusivement jeunesse, ça va être pour nous de zéro. Et vraiment zéro, ça on y tient, jusqu'à 12 ans, sachant qu'après on propose encore des choses, mais c'est pas notre cœur de cible. Et donc voilà, on propose du numérique depuis 2010-2011, on s'est équipé de tablettes, de Nintendo DS et d'une Wii.
Okay. Voilà. Je crois qu'il y a des ordinateurs aussi, plus basiquement.
Oui, oui, des ordinateurs, mais depuis plus longtemps.
Voilà. Voilà,
on a un parc informatique, on a une toute petite bibliothèque, on est 6 personnes à temps plein à la faire tourner pour un public exclusivement jeunesse plus accompagnateur, évidemment, puisque de toute façon certains enfants viennent forcément avec leurs parents ou leurs accompagnateurs.
Okay. Et voilà. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que vous avez des activités à la fois bibliothèque entre guillemets classique, j'allais dire, mais aussi des activités numérique et aussi des activités bon, différentes avec les mamans du quartier, par exemple, avec
En fait, on est vraiment... on est ancré dans... On a 2 axes de réflexion. C'est-à-dire qu'on est vraiment une bibliothèque ancrée dans notre quartier quand la bibliothèque a failli fermer. Il faut savoir que la petite bibliothèque ronde, c'est un lieu aussi qui est assez atypique puisque c'est une bibliothèque qui, comme son nom l'indique, est toute ronde, qui a été faite dans les années 60, qui a été ouvert en 1965, qui est constitué de 9 cylindres et du coup qui est classé comme monument historique de France depuis 3 ou 4 ans. Voilà, donc on est très ancré dans notre quartier, on est en plein milieu de la cité de la Plaine de Clamart. D'ailleurs, on peut pas accéder à notre bâtiment par en automobile, on est obligé d'emprunter les petites voies piétonnes. Donc on est vraiment ancré au cœur du quartier, vraiment, on est en réaction à ce que nous propose le quartier, aux envies des enfants, etc. Et le 2e axe, c'est le volet international, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, on a été mandaté par le ministère de la Culture en 2008 sur un pied d'égalité avec la BPI, qui s'occupe plutôt du volet bibliothèque publique d'information, BPI,
oui,
à Paris.
Oui, c'est ça, oui.
Donc, qui s'occupe plutôt de tout ce qui est réflexion sur les publics adultes. Nous, donc, on a été mandatés par le ministère de la Culture pour s'occuper de tout ce qui était jeunesse et notamment d'anticiper les évolutions et les pratiques des jeunes publics. Donc, du coup, voilà, on est sur 2 axes.
Oui, bah c'est complètement le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est de voir, en gros... Pourquoi, alors déjà, est-ce qu'il y a de l'introduction du numérique dans tout ce qui est éducatif, donc que ce soit à l'école, que ce soit en bibliothèque jeunesse ou dans d'autres domaines? Et ça c'est une question à laquelle on va répondre très vite, puisque le fait est que oui, évidemment, ces nouvelles technologies sont introduites, de fait, mais pourquoi, par qui, et surtout, est-ce que c'est bien ou mal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça n'apporte pas, quels sont les changements par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les générations précédentes. Donc on va essayer de développer un petit peu ce sujet-là ce soir. Quels sont les impacts, finalement, de l'introduction d'outils numériques au sens large, ordinateur, ça peut être aussi, évidemment, console de jeu, tablette, pourquoi pas télévision, vraiment numérique, technologie au sens large. Qu'est-ce que ça change pour les enfants, puisqu'on va plutôt s'axer là-dessus, même si, effectivement, on pourrait aussi parler de tout ce qui est instruction ou éducation adulte, mais là, ce soir, je pense que le sujet sera plus axé sur l'univers de l'école, l'univers des domaines jeunesse. Peut-être on peut commencer du coup par l'école primaire, à voir un peu ce qui s'y passe en ce moment. Puisqu'on a contacté, pour préparer cette émission, différents universitaires qu'on va remercier au passage, si jamais ils nous écoutent, même s'ils ne nous écoutent pas d'ailleurs, c'est pas grave, tant pis, on les remercie quand même, ces personnes qui ont bien voulu répondre à nos différentes questions, différentes interrogations sur cette introduction des technologies dans l'éducation. Donc Clément, je crois que tu avais noté quelques retours là-dessus.
Ouais, j'ai discuté récemment avec une institutrice de département de la Meuse, donc un département rural, qui est je la connaissais, mais j'avais aucun connaissance sur comment dire ce qu'elle faisait dans son école et quel était le contexte. Hein, c'est vraiment disons un pur hasard. Et j'ai été assez surpris d'apprendre que dans ce département rural, dans un village rural, ils avaient une utilisation des technologies de l'information et de la communication vraiment, vraiment développée. Alors, je peux peut-être détailler rapidement les différents dispositifs qu'ils utilisent. C'est une école de CE2, CM1, en tout cas sur deux niveaux. Et donc, ils ont plusieurs dispositifs que moi, je trouve futuristes, mais ils les utilisent pratiquement tous les jours. Le premier, c'est une paire de tableaux tactiles. Donc, il y en a un, ils appellent ça un tableau blanc, où tu peux écrire et manipuler les objets sur le tableau avec un stylet. Et l'autre, c'est un tableau, donc, je ne sais plus le nom qu'ils donnent, mais c'est pareil, sauf que tu le manipules cette fois avec ton doigt, directement. Et donc, dans la classe, il y a deux tableaux numériques et un tableau créé classique au fond de la classe. Donc ça, c'est utilisé, cet instit, et tous ses collègues dans cette école utilisent ce dispositif en fait toute la journée. Donc c'est vraiment pas un usage gadget, c'est le quotidien. Un autre dispositif qu'ils utilisent, c'est ce qu'ils appellent une classe mobile. En fait, c'est 2 x 12 paires de 12 netbooks. Donc des mini-ordinateurs qui font avec des écrans de 11 à 13 pouces. Et ils ont été fournis, donc tout ce matériel a été fourni à 50% par l'éducation nationale et par la communauté de communes. Et donc ces 2 x 12 netbooks, ils utilisent pareil au quotidien, c'est partagé entre les différentes classes de l'école, mais l'instit qui est la directrice m'a précisé qu'en fait c'est utilisé tout le temps. Mmh. Il n'y a jamais de temps mort. Donc c'est vraiment pareil, un usage qui fait vraiment l'unanimité parmi ce groupe d'instit. Et elle m'a dit, si on avait autant de netbooks que d'élèves, on les utiliserait pratiquement tout le temps. Alors, ça m'a interrogé un peu en fait sur qu'est-ce qu'ils font en pratique avec ces dispositifs, hein. Je tape un peu mon monologue, hein, mais si vous voulez...
Ouais, mais vas-y.
Interrompez-moi, il n'y a pas de souci. Et donc les tableaux, ils utilisent par exemple pour exercices, que ce soit de maths, de français. Alors à la fois, ils projettent en fait le contenu d'un PC classique, tu peux vraiment afficher l'écran de ton ordinateur sur ce tableau. Ils utilisent aussi des logiciels plus dédiés où tu peux interagir avec. Par exemple, en maternelle, pour apprendre à compter, ils affichent des pommes ou des étoiles sur l'écran. Et ensuite, les enfants, ils doivent classer les étoiles par nombre. Donc on leur dit, tu viens en tableau et tu fais avec ton doigt, tu classes, t'entoures 5 étoiles et tu les bouges dans les coins et tout ça. Donc voilà, moi j'ai été surpris.
Mais c'est un peu finalement du gain de temps par rapport à ce qu'on faisait avant, où l'instit, moi je me souviens, préparait ses tableaux avant qu'on rentre en classe, et on opérait entre guillemets une manipulation, en tout cas intellectuelle, puisqu'on ne pouvait pas le faire avec les doigts ni avec un stylet. Mais finalement, là, on est sur du gain de temps pour l'instit,
ouais.
Et pas forcément un changement dans les pratiques d'enseignement.
Alors, effectivement, c'est un peu ce qu'elle m'a souligné quand je lui demandais c'était quoi le vrai besoin auquel ça répondait, c'est que elle est sur deux classes à la fois. Et elle disait, ça me sert de, les ordinateurs, ça me sert à capter l'attention d'un groupe sur les ordinateurs avec un exercice qui est préparé à l'avance pendant que j'anime l'autre groupe. Donc, en ce sens, c'est vraiment, voilà, il faut choisir deux endroits à la fois. Une manière d'y remédier, ça va être avec ces outils numériques.
Et là, presque, à la limite, quand tu dis ça, moi, ça me fait penser un peu à la télévision nounou. C'est-à-dire, je colle mon gamin devant la télévision, ça l'occupe. Pendant ce temps-là, je fais autre chose ou peu importe. Mais quelque part, on a l'impression que cette institutrice, elle a deux classes à gérer pour être toute seule, ce qui évidemment, a priori, pose problème. Et quelque part, bah, pendant que j'en gère une, il faut bien que j'occupe l'autre, donc je l'occupe avec des ordinateurs. Et voilà, c'est-à-dire, est-ce que ça l'aide vraiment à apprendre quelque chose aux enfants, quelque chose de plus, quelque chose de différent, ou est-ce que c'est pas juste un palliatif par manque de temps, par manque d'énergie à consacrer à un groupe? Je colle mon groupe devant quelque chose qui lui maintient l'attention, et en parallèle, bah, je m'occupe de l'autre groupe, et inversement, après, je zigzague comme ça d'un groupe à l'autre.
Ouais, alors effectivement, c'est aussi une réaction que j'aurais, mais dans la description qu'elle m'a faite, il y a une différence par rapport à ton exemple de la télévision, c'est que dans tous les usages qu'elle m'a cités, que ce soit les tableaux ou les PC, c'est l'instit qui est maître du contenu. Donc quand elle va faire un exo de maths pour les CE1 et interagir avec les CE2, les CE1, ils sont sur l'exo de maths. Donc c'est elle qui a préparé le contenu à l'avance et ils ne peuvent pas changer d'application. Donc c'est vrai que d'un côté, elle ne peut pas interagir avec. Clairement, s'il y avait plus d'instit, je pense qu'elle ne serait pas dans cette situation. Mais en même temps, ce n'est pas non plus de la distraction parce que dans tout ce qu'elle m'a dit, le contenu est vraiment contrôlé par l'instit. Et en plus, dans les notebooks, là, il y a un PC maître sur lequel elle a la vision sur tous les netbooks des élèves. Mmh. Donc il n'y a pas vraiment de moyen d'échapper à sa vigilance, grosso modo.
Donc c'est plus pratique, quoi.
Après, ce qu'il y a aussi dans l'exemple que tu donnais, c'est-à-dire que sans le numérique, cette instit, elle aurait fait comment ? Elle aurait fait des photocopies, elle les aurait distribuées à ses élèves, et de la même manière, elle aurait scindé sa classe en deux, en laissant ses élèves en autonomie devant une photocopie, et l'autre... Donc en fait, autant je suis d'accord sur le fait que souvent le numérique vient remplacer un humain, autant là, pour ces exemples-là, au bout d'un moment... faut gérer sa classe et qu'on le gère avec du papier ou du numérique. Il y a vraiment des emplois où le débat n'a pas lieu d'être. Enfin, le temps de préparation pour l'instit est le même, puisque de toute façon, elle va créer son document. Après, qu'elle le balance sur un notebook ou qu'elle en fasse 12 photocopies qui seront manipulées ou comptées avec les doigts de la même manière sur un notebook. Finalement, les enfants ont le même ressenti. Après, effectivement, il faut être vigilant.
Finalement, dans un sens ou dans l'autre, on va dire que c'est ni pire ni meilleur. C'est simplement un problème de... Il faut que je m'occupe des deux classes, quoi qu'il arrive.
Et sur ces activités-là.
Voilà. Oui, sur un certain type d'activité. Donc, ce serait plus un problème de... On manque d'instit, et de toute manière, l'instit doit se débrouiller pour trouver une manière de gérer sa classe, quoi qu'il arrive. Soit avec des nouvelles technologies, soit avec de la photocopie, comme tu disais, soit avec, un livre, n'importe quoi...
Un rétroprojecteur, enfin, je veux dire, très souvent dans les classes, quand on n'a pas les photocopies, pas les budgets, pas, etc., voilà, projette et voilà.
Justement, elle a dit sur les netbooks, ils n'ont pas assez de crédit pour... Enfin, en tout cas, non, elle n'a pas dit ça comme ça. Elle a dit qu'ils n'avaient pas assez de livres pour tous les élèves. Donc, d'avoir le contenu sur un netbook, c'est plus simple. Et ils ont exactement la version moderne du rétroprojecteur, c'est-à-dire qu'ils ont une caméra qui est connectée à un PC... Et ils peuvent afficher, donc c'est une caméra haute définition, et ils peuvent afficher le contenu, ce que voit la caméra sur le TBI, donc le tableau blanc interactif. Donc avec ça, en fait, elle dit, ça me permet de dupliquer du contenu facilement, que ce soit un livre qu'on a qu'en un seul exemplaire ou que tous les enfants n'ont pas. Ça, c'est un usage de tous les jours, ouais.
D'accord, c'est un usage pratique. En fait, bon, je vais faire mon rabat-joie et mon réac, c'est ce que je préfère. Mais en fait, ce qui me fait toujours peur dans l'introduction de nouvelles technologies, pourtant, enfin, on va être clair, hein, j'utilise des nouvelles technologies, j'ai un ordinateur chez moi, je bosse dessus, c'est mon métier, etc. Voilà, je suis un informaticien, donc, voilà, hein, je ne suis pas à dire, il faut tout jeter à la poubelle, etc. Mais je me pose toujours la question quand même quand j'entends parfois des discours, notamment qui viennent de politiques ou de directeurs d'école, etc., qui disent « ouais, on va mettre le paquet sur le numérique, on crée un budget, on s'achète, allez, des iPads, machin, tout ce qu'on veut ». Je me pose toujours la question, pourquoi en fait ? Pourquoi cette envie de balancer de la technologie aux enfants, ou enfin enfants qui soient petits ou plus grands, ados, etc., même adultes, est-ce que ça répond vraiment à un besoin ? Est-ce que ça apporte un plus en termes d'apprentissage, de connaissances, etc. ? Ou est-ce que c'est plus une forme de marketing, les technologies c'est dans l'air du temps, c'est jeune, c'est in, comme on dit, comme diraient les jeunes d'ailleurs. Et est-ce que voilà, c'est pas plus gadget ou comme que véritablement utile, ou alors, comme on l'a dit tout à l'heure, un palliatif à un manque de profs ou ceci, cela. Ah oui, on va enlever la moitié des profs, mais vous inquiétez pas, on va mettre des iPads, on va mettre des ordinateurs, on va mettre ceci, cela. C'est plus ça qui m'inquiète quand on parle de nouvelles technologies, que bon, de dire c'est génial. Alors c'est génial, si c'est génial, d'accord. Est-ce que ça apporte un vrai plus en termes de, je sais pas, d'intérêt peut-être pour les élèves, d'apprentissage
Alors en fait, moi je vais répondre au niveau d'une bibliothèque. Quand on a introduit les iPads et... Enfin, notamment les iPads, parce que les ordinateurs, c'était assez rentré dans les mœurs quand même. Mais les iPads, quand on les a introduits, tout le monde nous a dit « Ah, vous allez enfin faire lire les ados !» Alors en fait, je vais dire un truc qui a peut-être choqué, mais en fait, on ne rend pas un enfant non lecteur, on ne le rend pas lecteur en lui posant un iPad sous le nez, quel que soit le contenu. C'est-à-dire qu'on va peut-être rattraper des enfants un petit peu borderline, qui auraient envie d'arrêter un peu la lecture ou de s'en éloigner pour un temps, on va peut-être les raccrocher, allez, 6 mois, 1 an de plus. Mais on ne fera pas d'un non-lecteur un lecteur grâce à l'iPad. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'enseignement, parce que clairement, nous, on ne se positionne pas du tout dans le cadre de l'enseignement. Mais en tout cas, pour ce qui est de la lecture plaisir, clairement, ça ne change pas l'envie d'un enfant.
Donc c'est ni pire ni meilleur, en
c'est
gros.
Ni pire ni meilleur. Et nous, effectivement, à la petite bibliothèque ronde, c'est un média comme un autre. C'est-à-dire qu'on a toujours de toute façon été pointé du doigt parce qu'on faisait des trucs un peu bizarres. Alors oui, on a des jeux, on n'est pas une ludothèque, mais on a des jeux. Alors oui, on a des jeux à raconter, on a des jeux de cartes où on va s'inventer des histoires. On va utiliser le Scrabble, on va utiliser tout et n'importe quoi pour pouvoir raconter des histoires. En fait, on n'est pas une bibliothèque qui allons vendre le plaisir de la lecture papier. On est une bibliothèque qui allons vendre le plaisir des histoires, qu'elles soient contées, qu'elles soient racontées, qu'elles soient lues, qu'elles soient sur iPad, qu'elles soient sur PC, qu'elles soient sur support papier, peu importe. Et après, effectivement, c'est un gros travail derrière de gestion du numérique. C'est-à-dire qu'effectivement, on a fait rentrer des iPads. Maintenant, tout ce qui est mis sur les iPads est contrôlé et tout ce qui est mis sur les iPads à disposition des enfants est doublement contrôlé. Pour donner des chiffres réels, on est donc, je l'ai dit, une équipe de 6, on est tout petit. Et en fait, on a, depuis un an, un peu plus d'un an maintenant qu'on a les iPads, on a rentré sur la tablette 3000 applis. On en a testé plus de 500. Donc, tester, ça veut dire l'animateur multimédia plus au moins une bibliothécaire avant tester l'appli. Et on en a mis à disposition des enfants moins d'une centaine. Donc ça ne change rien. Enfin, de la même manière où quand je vais lire un album en librairie, je vais être hyper exigeante sur les fautes d'orthographe, l'histoire, l'imaginaire que ça peut développer. Ben, en fait, de la même manière, je le suis avec une appli. Et après, à ce compte-là, je le mets devant les enfants. Donc pour nous, ça n'a rien changé. Et pour l'enfant, de toute façon, du moment qu'il a le plaisir de la lecture, encore une fois, il va le développer ou non. Mais c'est un gros travail derrière.
Et je me demandais, est-ce que... dans la prise en main d'un iPad, par exemple, iPad ou un ordinateur, est-ce que l'enfant est placé dans la même configuration que devant un livre ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est accompagné par un adulte qui va lui lire l'histoire ? Est-ce qu'il est tout seul ? Est-ce que ça change quelque chose aussi à ce niveau-là ou pas ?
Alors, en fait, à ce niveau-là, on va dissocier clairement les ordinateurs des iPads, c'est-à-dire les supports verticaux et les supports horizontaux. C'est-à-dire que l'enfant, par rapport à toutes les études scientifiques qui ont été menées, l'enfant a un rapport très différent entre le livre, qui est le plus souvent un rapport horizontal, et l'ordinateur, qui est un rapport vertical. On est beaucoup de générations à dire « Moi, j'ai du mal à lire sur un PC, il faut que je l'imprime. Mmh. Ou à l'inverse, des générations qui ont appris à lire sur du vertical et qui se disent, moi, le PC, lire mon journal sur un PC, c'est super facile. Donc là, il y a vraiment un rapport très différent où il faut très souvent être en accompagnement de l'enfant et l'enfant va de toute façon instinctivement plus faire du jeu sur l'ordinateur que de la lecture prolongée. Après, le problème, c'est que les tablettes changent la donne. Là où on avait une différence support horizontal, support vertical, on n'en a plus. Le livre, de la même manière qu'un iPad, qu'une tablette, qu'une liseuse, est un support horizontal. Et là, en fait, on est en ce moment en pénurie d'études, tout simplement. C'est-à-dire que nous, on a pris le parti de mettre les enfants devant du numérique, quel qu'il soit, à partir de 4 ans. Mais c'est finalement, c'est un parti pris assez dictatorial, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire pour dire si, psychologiquement ou de manière moteur, ou etc., le fait de mettre un enfant devant un support horizontal avec ou sans rétroéclairage change la donne.
Oui.
Mais par rapport à ce que disait Guillaume, les enfants, ils sont accompagnés la première fois qu'ils utilisent un outil ?
Chez nous, oui. Chez nous, de toute façon, alors c'est pour ça qu'on est une bibliothèque assez atypique, parce qu'on a, c'est peut-être des ratios qui ne vous parlent pas, mais pour moins de 300 mètres carrés d'ouverture au public, on est 5 personnes minimum à l'ouverture. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, derrière chaque enfant, il y a un adulte.
D'accord.
Ce qui est une chance, vraiment. Hein. C'est hyper rare, on se bat pour, et voilà, c'est une des caractéristiques de la bibliothèque. Donc, de toute façon, nous, du moment où on met un enfant devant du numérique, il y a un accompagnement. Plus ou moins distancié selon l'autonomie de l'enfant.
Et on
tend vers de l'autonomisation le plus possible. Hein. On n'est pas là pour que l'enfant ait besoin d'un adulte à tout moment. Mais de toute façon, il est accompagné puisque tous les contenus qu'il a devant les yeux, c'est nous qui lui proposons. Donc même si on n'est pas derrière lui au moment où il clique, on sait sur quoi il clique. Donc dans cette dimension-là, on accompagne l'enfant de bout en bout. Et après, on peut accompagner enfants et parents, et j'insiste, et accompagnateurs et grands-parents, et voilà, sur de la tablette, de l'ordinateur, de la Wii, de la DS, n'importe quoi. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les parents, s'y mettent pas. Alors, pour des raisons hyper diverses, pour des raisons budgétaires, on n'est pas équipé à la maison. Pour des raisons, on va dire, d'estime de soi, j'ose pas me confronter aux enfants sur ce support-là. Et pour des raisons d'intérêt. Ça ne m'intéresse pas. Et on se retrouve avec des parents, des parents aussi qui sont qui ont parfois un problème de langue. C'est-à-dire, moi, je ne lis pas ou je ne parle pas le français. Comment je choisis, même si j'en ai envie, un bon jeu ou une bonne appli pour mon enfant ? Alors, des fois, notre formation ou notre sensibilisation à l'adulte, elle va juste être de l'ordre du « on explique le PEGI », ce qui est un système de classification des jeux vidéo, avec des logos, d'accord, des cryptogrammes hyper simples, moins de 16, moins de 12, peut avoir des corps nus dans le jeu, peut avoir des relations à l'argent, de jeux d'argent, etc. Et du conseil hyper individualisé où, alors il fait ça, à votre avis, c'est comment ? Est-ce que je le laisse faire ? Est-ce que je lui donne mon numéro de carte bleue pour aller acheter des trucs sur Internet ? Enfin, on a vraiment des questions au tout venant. Et en fait, c'est aussi... la bibliothèque n'est pas là pour se rendre essentielle dans le conseil aux enfants. La bibliothèque, que ce soit envers les enfants ou envers les parents, elle est là pour autonomiser l'individu. Donc que ce soit dans l'utilisation des enfants ou dans l'utilisation, c'est-à-dire qu'on fait aussi jouer les parents. On fait jouer les parents à huis clos.
Entre eux ?
Entre eux et sans les enfants, pour que s'ils n'y arrivent pas, c'est pas grave. Parce que souvent les parents ont peur de ça, mais sur des jeux tout simples comme Mario Kart. Mon enfant, il finit toutes les courses le premier. Je peux pas me confronter à ça en tant que parent parce que finalement mon autorité rentre en jeu, la légitimité de mon autorité. Et ils ont peur de ça souvent, ce qui n'est pas le cas en fait une fois qu'on joue. Donc on est là aussi pour les confronter à la technologie qu'ils n'ont pas forcément croisée. Après, on arrive à offrir aussi des cours plus pragmatiques de Word, ouvrir une boîte mail, parce qu'aujourd'hui en tant qu'adulte, on a besoin de l'ordinateur quand on est en démarche avec la CAF, quand on est en démarche avec la NPE, quand on est... Voilà, on a besoin. Et en fait, le fait de former des deux côtés, ça permet de rendre confiance et aussi de valoriser les pratiques de l'enfant. Ah, mon enfant, il lit pas de livres. Ah bon ? Ah non, mais il passe 12 heures sur Internet. Alors en fait, il lit. Effectivement, il lit pas de livres. Mais votre enfant, il passe sa journée à lire.
il lit pas tout à fait de la même manière. Quand même.
Ouais, il lit pas après. De la même manière, il lit pas les mêmes choses, il lit pas forcément ce qu'on aimerait qu'il lise, mais le schéma intellectuel de assembler des syllabes pour en faire une phrase, mm-hmm. et ben il l'a finalement. Voire même, dans les jeux en réseau, il écrit. En fait, vous vous en rendez pas compte, mais il écrit.
Ah si, on joue.
Voilà. Non, mais, enfin, je veux dire,
on est des vieux ringards, mais...
Quand je dis vous, c'est les parents, parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Ou alors, il lit pas, il a que des magazines de jeux vidéo. Ben oui, mais ces magazines des jeux vidéo, il les décrypte à un moment donné.
C'est déjà quelque chose, quoi. C'est déjà une lecture, c'est déjà une...
Ouais, et c'est rendre vraiment une légitimité à la pratique des enfants. On s'est tous construits en faisant des choses constructives et reconnues par nos parents. On a fait de la danse, on a fait du foot, on a fait, je sais pas, de la musique, on a fait, voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de pratiques des enfants, en fait, est mal comprise de leurs parents, et donc un peu dénigrée quelque part. Et donc, on n'arrive pas à se faire plaisir et en même temps à avoir une vision, à renvoyer à nos parents une vision assez améliorative de nous, quoi.
Mmh. D'accord.
Bon, je pense qu'on va continuer le sujet... Après une petite pause musicale, si Colin veut bien nous envoyer
un petit
quelque chose. Peut-être juste avant, je donne le numéro de l'émission, si certains veulent nous appeler pour nous faire part d'une remarque, poser une question ou autre. Donc c'est le 01 43 71 89 40.
Faire le vieux monde va s'écrouler, que ce soit des siècles ou des années, le vieux monde va s'écrouler, l'histoire va se répéter, y'a qu'à voir dans le passé, rira bien qui rira. Le dernier, on va danser, on va boire à la chaleur des missiles, on va chanter, on va rire à la chaleur des missiles. Ce soir je peux vous assurer qu'on achèvera le passé, rira bien qui rira. Le dernier. Chaude. Ce soir la nuit sera beau faire, le vieux monde va s'écrouler. Que ce soit des siècles ou des années, le vieux monde va s'écrouler. L'histoire va se répéter, y'a qu'à voir dans le passé. Rira bien qui rira le dernier. On va danser, on va boire à la chaleur des missiles. On va chanter, on va rire à la chaleur des missiles. Ce soir je peux vous assurer qu'on achèvera le passé. Rira bien qui rira le dernier. Ce soir la nuit sera courte, mais elle sera chaude. Ce soir la nuit sera courte, mais elle sera chaude. À la chaleur des missiles, à la chaleur des missiles, à la chaleur des missiles, à la chaleur des missiles. On a beau dire, on a beau faire, le vieux monde va s'écrouler. Que ce soit des siècles ou des années, le vieux monde va s'écrouler. L'histoire va se répéter, y'a qu'à voir dans le passé. Rira bien qui rira le dernier. Ce soir la nuit sera courte, mais elle sera chaude.
Radio Libertaire, vous venez d'écouter, je sais pas, le mur du son, suivi de Merzine à l'acheteur des missiles, deux reprises de Les Shérifs. Donc, le monde merveilleux du travail du syndicat de l'industrie informatique, à vous.
Merci Colin. Eh bien oui, on reprend. Je redonne tout de suite, avant d'oublier, le numéro de l'émission. Si vous voulez nous appeler ou poser des questions...
Pendant les pauses musicales
de préférence, oui. C'est le 01 43 71 89 40. Et nous reprenons tout de suite l'émission. Je rappelle le sujet de ce soir. C'est l'informatique ou les technologies d'information et de communication au sens large et l'éducation... l'instruction, en particulier des plus jeunes. Donc, on va rembrayer sur un thème qu'on a déjà commencé à aborder un petit peu tout à l'heure, mais Clément va nous en dire plus. C'est sur, tout d'abord, la notion de différence au niveau de l'apprentissage, c'est-à-dire est-ce que le fait d'introduire les TIC, donc les technologies d'information et de communication, change fondamentalement la donne dans l'apprentissage ?
Oui, j'ai pensé à ça quand... Morgane en a parlé dans la session précédente, et dans les différents universitaires qu'on a contactés, les ressources qu'on a pu se procurer sur Internet, ils ont à peu près tous la même réponse. Ça va peut-être être un peu grossier pour eux de dire ça, mais globalement, il y a quand même un consensus, c'est que en termes de connaissances, au sens apprendre le français, les maths, les connaissances, je dirais, le socle, avoir un PC dans la classe toute la journée ou pas, ça change pas, au final ça change pas grand chose. Il y a un chercheur qui a fait une étude sur le département des Landes où les collèges ont été équipés d'ordinateurs. Donc il a comparé les résultats sur plusieurs années entre les Landes et les départements limitrophes. Globalement ça change rien au sens où le classement des Landes par rapport aux autres départements au fil du temps sur l'évaluation des connaissances a pas changé, c'était les deuxièmes meilleurs et au fil du temps ils restent toujours dans la même position. Donc sa conclusion, et elle rejoint celle d'autres études, c'est que ça change pas grand chose. Par contre, ce qu'ils disent tous aussi, c'est que les méthodes d'évaluation entre les écoles qui ont un ordinateur toute la journée et les autres, sont les mêmes. Et donc, ils suggèrent que si les méthodes d'évaluation étaient plus, comment dire, adaptées aux ordinateurs, si on formulait les problèmes de la même manière qu'on les résout sur l'ordinateur, c'est-à-dire que dans le passé, par exemple, je cite un des exemples que j'ai trouvé dans les études, pour résoudre un problème, on va vous donner une liste de données qui, je ne sais pas, sur par exemple la température d'ébullition de différents métaux, et on va vous poser la question, si je fais un alliage de ces métaux, à quelle température il va bouillir ? Et on vous donne pour chaque métal sa température d'ébullition dans un tableau. Ça, c'est la version de ce que les chercheurs appellent l'évaluation 20e siècle. Et la version 21e siècle, ce serait, on ne vous donne pas les différentes températures d'ébullition de ces métaux, et on vous dit, en fait, on vous pose la question sans vous donner les données. Je m'explique assez mal. Et,
non, c'est compréhensible.
Vous devez aller les chercher, en fait, vous-même, sous-entendu, sur Internet. Et donc, voilà, c'est ça la différence, pour un exemple, entre une évaluation du 21e siècle et une du 20e siècle. Et donc, sur ces études, les études donc, qui ont été menées soit en France, soit aussi on en a d'autres aux États-Unis, ils suggèrent que si les énoncés des évaluations changeaient, il y aurait peut-être un avantage à l'ordinateur. Mais ça ne change pas le fond des connaissances, ça change plutôt la forme des réponses qu'on donne et la forme des connaissances qu'on acquiert.
Oui, encore, je dirais là sur cet exemple, moi ce qui me frappe, c'est plutôt qu'on demande, dans l'hypothèse 21e siècle, finalement on demande une deuxième compétence. La première compétence, c'est on va dire une question de logique, de réflexion, de j'additionne ou je soustrais les températures d'ébullition, etc. Qui a priori est maintenue dans la version 21e siècle, simplement en plus... Il y a une partie de l'énoncé qui n'est pas donnée et qu'il faut aller chercher ailleurs, sur Internet par exemple.
Mais du coup, on arriverait peut-être avec les enfants à donner une vraie légitimité à la notion de recherche et de recherche sur Internet et de vérification des recherches. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la plupart des enfants, tout ce que renvoie en réponse à une requête Google, l'ordinateur, est juste.
Ils font confiance.
Exactement. Ouais. Mais parce que la discrimination de l'information est pas du tout enseignée. C'est-à-dire que on n'apprend pas aux enfants à remettre en doute la parole de l'ordinateur. De la même manière où on n'apprenait pas à remettre en doute la parole de l'instituteur. Et ce problème-là, en fait, prendrait une autre forme si on disait aux enfants « Allez chercher vous-même vos réponses », parce que ça veut dire « Allez chercher vos réponses ». Et aller vérifier vos réponses. Et finalement, la notion de recherche de la véracité de l'information prendrait là tout son sens. Ce qui, à l'heure actuelle, dans la plupart des enseignements qu'on a pu voir dans l'éducation nationale ou ailleurs, n'est pas remis en cause. On dit souvent, régulièrement aux enfants, attention, ce que vous trouvez sur Internet, c'est pas forcément juste. Mais en vrai, dans les faits, à aucun moment, leur comportement vis-à-vis d'Internet n'est sanctionné, enfin, ou en tout cas... mis en perspective d'un enseignement dans les recherches Internet.
Oui, mais donc là se pose la question de l'enseignement. Enfin, pour moi, en quelque sorte, il y aurait deux cours à ce moment-là. Il y aurait le cours de physique sur l'ébullition des métaux et un deuxième cours, utilisation des nouvelles technologies, finalement.
Mais qu'en vrai, normalement, vous avez déjà au CDI. Et oui, les cours de recherche infodoc qu'on vous dispense au CDI... quelle que soit la qualité qu'elles aient, c'est ça leur but.
Oui, alors voilà, après il faut voir jusqu'où, voilà, quelle est la qualité de ces cours, est-ce qu'ils sont assez présents ?
En tout cas, le créneau horaire, normalement, existe dans tous les enseignements de collège.
D'accord, bon, à mon époque, je ne m'en rappelle pas.
Le CDI, ça me dit quelque chose.
Oui, le CDI, oui, mais le cours de recherche.
Alors, le cours de recherche, c'était aller faire votre exposé au CDI. Et avec documentaliste, vous deviez apprendre à discriminer les informations, les hiérarchiser et les utiliser comme il le fallait, entre guillemets, dans votre exposé.
D'accord. Ouais. Bah, au primaire, là, il y a effectivement ce qui s'appelle le B2E, donc c'est un brevet informatique qui est obligatoire pour rentrer en sixième, donc il faut l'avoir pendant le primaire. Alors, la description que m'en a faite l'institutrice que j'ai interrogée, ça ne comprend pas cette méta-interrogation sur est-ce que je peux faire confiance, qui est une question sur l'usage, qui n'est pas juste comment je fais. Parce que là, la description qu'elle m'en a faite, c'est vraiment est-ce que je sais faire un copier-coller, est-ce que je sais insérer une image dans un document. Donc, après, c'est des élèves du primaire, hein, on ne peut pas leur demander un truc de fou. C'est vraiment de l'usage et il n'y avait pas de remise en question de l'outil, du médium. Quoi.
Ouais, donc, ça... Je pense, à mon sens, l'introduction de nouvelles technologies impose des cours de formation des élèves. Comment faire une recherche sur Internet, quelle information prendre, ne pas prendre, confronter les informations, etc. etc. En complément d'ailleurs d'autres sources d'informations, puisque finalement on pourrait considérer, je pense, que sur Internet ou une encyclopédie numérique qui ne serait pas sur Internet, mais toute information issue d'une source technologique serait une source parmi d'autres, parmi des sources papier, parmi des sources radiophoniques, télévisuelles, tout ce qu'on veut, et qui ne serait pas, parce que, il me semble, moi je ne suis pas dans l'éducation, mais j'ai souvent entendu soit des profs, soit des parents d'élèves dire « Ouais, mais moi, mon gamin ou le gamin, il fait son exposé, il tape sur Wikipédia, il fait un copier-coller et il nous ramène ce qu'il a trouvé sur Wikipédia, ou je dis Wikipédia, en l'occurrence, je trouve que Wikipédia est plutôt bien fait. »
Mais de la même manière où nous, sur CD-ROM, enfin nous, la génération des années 80, sur CD-ROM, on le faisait sur Encarta. Qui n'a jamais fait son exposé sur Encarta ?
Mais c'est toute la question de...
Mais à la limite, l'Internet n'a pas changé dans... J'exagère, mais la fainéantise des élèves. On a tous été un élève fainéant.
Mais après, il y a la fainéantise. On a tous effectivement été des élèves fainéants. Genre, je prends mon dictionnaire, je réécris ce qui a été marqué dedans. Ça, je l'ai fait, je m'en souviens très bien. Bon, c'est un bon vieux Larousse, bien sérieux, tout ce qu'on veut, austère possible, voilà, pas de problème. Mais après, la question d'Internet, par rapport à un Larousse, est quand même très différente. Un Larousse, je dis pas que tout est vrai, tout est parfait, etc. Mais il y a quand même un vrai travail éditorial, relecture, recherche d'informations, etc. Internet, tout le monde est potentiellement auteur, contributeur, correcteur, lecteur. C'est-à-dire, moi, demain, je vais sur... D'ailleurs, j'ai un compte Wikipédia, j'ai déjà touché Wikipédia pour différentes choses. Si j'ai envie de mettre une information, je peux la mettre. Et finalement, tu sais jamais trop... sur Wikipédia ou autre chose, un blog, n'importe quoi, qui l'a écrit, d'où il tient sa source, d'où vient l'information, etc., etc. C'est beaucoup plus nébuleux, ça peut en tout cas être beaucoup plus nébuleux que des sources comme on a connu à l'ancienne, on va dire.
En fait, moi, je suis d'accord dans le sens où Wikipédia n'est pas à 100% sûr, quoique là encore, je vais jouer l'avocat du diable. Je suis nulle pour les noms et les chiffres et tout, mais il y a une étude qui a été menée entre une vraie encyclopédie papier,
Britannica et Wikipédia.
Voilà, oui. Et le taux est de plus de 80%.
Ouais, le taux était très flatteur pour Wikipédia voilà. Sur les articles.
Oui, enfin, je trouve personnellement que c'est une très bonne encyclopédie.
Et ouais. Après, moi, ce qui me dérange dans Wikipédia, c'est que la limite de l'encyclopédie s'arrête là où débute la morale de chacun. C'est-à-dire que on a des exemples sur. Des exemples qui traitent de tableaux, par exemple artistiques tels que l'origine du monde, voilà, qui représente le sexe d'une femme en gros plan, etc., qui a été viré. Alors je ne sais plus si c'est de Wikipédia, mais d'un autre site communautaire, et où effectivement, voilà, là, la liberté de la soif d'apprendre de chacun se limite à ce que tolèrent les individualités. Mais après, de toute façon, que ce soit sur du papier ou sur du numérique, le summum de l'éducation, ça serait quand même de donner à chaque élève un minimum de sens critique, tout simplement. Que,
oui.
Après, peu importe qu'il l'exerce sur du numérique, sur du papier, peu importe. Si l'enfant remet de temps en temps, je ne dis pas que le prof a toujours tort non plus, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais si l'enfant...
Pas en faire des gros anarchistes à 8 ans. faut pas d'autorité, non.
Je pense que les instituts et les profs ont déjà pas mal de...
De difficultés là-dessus.
Ouais, ouais. Exactement. Mais voilà, à un moment donné, est-ce qu'on ne donnerait pas la possibilité aux enfants de remettre en question le monde qui les entoure ? Après, c'est peut-être très idéaliste, mais je veux dire... Après, pour moi, encore une fois... Pour moi, que ce soit sur la qualité, sur la quantité, sur comment on le trie, etc., pour moi, papier et numérique, c'est le même problème. Ça demande un temps fou, ça demande un boulot d'accompagnement, ça demande un boulot de... voilà, et
de
peu
formation,
importe.
De, à
oui,
la base, de
une
toute
formation
façon.
Du personnel, quel qu'il soit, que ce soit enseignant, bibliothécaire, parent, tout simplement. On donne bien des remises à niveau en français à des parents qui sont d'une langue maternelle étrangère au français. Et pourquoi pas le même genre de remise à niveau pour les outils informatiques que de toute façon leurs enfants sont amenés à connaître. Encore une fois, moi j'ai des enfants qui sortent et qui viennent faire leurs devoirs à la bibliothèque. L'autre fois, on a été assez interloqués de voir que des enfants d'un collège tout entier ont eu des exercices de mathématiques à faire uniquement sur ordinateur. C'est-à-dire que, ok, la fraction sociale à ce niveau-là, elle est présente. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, alors tout le monde lève les yeux au ciel, mais il y a des enfants à l'heure actuelle qui n'ont pas Internet, qui ont peut-être un ordinateur, pas forcément Internet, qui n'ont pas de tout d'ordinateur, qui n'ont pas voix à l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il est réservé soit aux parents, soit aux grands frères, aux grandes sœurs, et on a le droit à 5 minutes entre 22h30 et 22h35, ce qui n'est pas le meilleur moment pour faire ses devoirs. Enfin voilà. Donc aussi, enfin, tout un système aussi est à remettre en question, je pense.
Oui, ça, ouais. Après, c'est le problème de l'imposition de la technologie.
Ouais, mais ce qui me faisait réagir dans ce que vous disiez, c'est que tu dis, oui, il faut que les étudiants, on leur apprenne un certain sens critique de l'information qu'ils reçoivent sur Internet. Mais le problème, c'est que, enfin, un problème que moi je vois, c'est que les élèves, en particulier de primaire, ils ont, il me semble, beaucoup plus de choses à apprendre maintenant que moi à leur époque. Par exemple, maintenant, ils font une première langue super tôt. Alors, en plus, apparemment, ils utilisent des PC, il faut qu'ils apprennent à savoir se faire un copier-coller avant la sixième. Et je me dis, il y a quand même, en termes d'horaire, d'ailleurs on en parle en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a plus de choses à apprendre, ou alors le niveau baisse dans certaines matières. Donc pour moi, il y a aussi une question de priorité, c'est, voilà, est-ce qu'on veut apprendre le français et les maths de manière approfondie, ou est-ce qu'aussi on va faire de l'anglais et avoir une culture de nouveaux médias, de la communication?
Et oui, et je veux dire, on est tous conscients de ça. Je pense que c'est pour ça, souvent, quand je tire sur ce que les enfants devraient savoir, je tire pas sur l'école. Parce que je sais que les instituts, les profs ont un programme hyper serré, ont pas forcément les moyens ni le temps de le faire. Maintenant, je dis pas que ce serait à d'autres structures de s'en emparer, puisque ça voudrait dire que l'État devrait se dessaisir du problème. Mais voilà, moi, j'ai ma façon de penser et j'ai ma façon de travailler. C'est-à-dire que au niveau de la réorganisation du système éducatif et plus globalement du système, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, moi, je travaille avec des enfants qui vivent aujourd'hui, qui ont les moyens qu'on leur donne. Et pour moi, du coup, ma mission est de les emmener là. C'est-à-dire de les accompagner vers cet Internet parce qu'on ne leur a pas donné les moyens avant, ou ils n'ont pas eu le temps, ou les instituts n'ont pas eu le temps, peu importe. Il se trouve qu'ils doivent les utiliser et qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément du monde qui a le temps de le faire. Donc ok, nous, on se saisit de cette mission-là, comme on peut. Hein. Je ne dis pas qu'on le fait super bien, mais en tout cas, on essaye de s'en donner les moyens. Là, et on accompagne l'enfant. Mais ça ne règle pas effectivement le problème. C'est-à-dire qu'on arrive à des notions... Alors après, est-ce qu'il n'y a pas une... j'ai du mal à le dire parce que c'est pas évident, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à ne plus apprendre?
Ah ben, il y a sûrement des choses à ne plus apprendre, ça je suis d'accord, mais est-ce que c'est pour apprendre l'informatique? Moi je suis informaticien, hein, je veux dire, j'ai fait toutes mes études en informatique, c'est mon boulot, et je pense pas qu'on doit apprendre à un enfant qui va en 6e d'apprendre un copier-coller, quoi. Je veux dire,
Bah ouais, mais le problème c'est que quand vous sortez, donc là, pour l'instant, la France, on a assez de chance, on a beaucoup on a des enfants qui font des études supérieures, et qu'on sorte, parlons de l'âge légal, des enfants qui sortent à 16 ans avec, au mieux, un brevet, et les enfants qui sortent d'une licence, par exemple, quelle qu'elle soit, enfin, exit l'informatique, mais d'une licence autre, qu'est-ce qu'ils connaissent de l'informatique? Parce qu'en fait, à ce moment-là, qu'ils aient 16 ans ou qu'ils en aient 19 avec une licence, qu'est-ce qu'on va leur demander en premier? En premier, on va leur demander de faire une lettre de motivation et un CV. Et ça, si vous n'avez pas... Alors, je ne parle pas de l'informatique dans son intégralité, mais si vous n'avez pas de notion de Word, vous allez tout penaud à une mission locale, à une bibliothèque, ou aller voir des potes ou n'importe quoi pour dire « comment on fait ?»
Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que quand tu vas devoir chercher du travail, à ce moment-là, tu dois effectivement savoir faire un document Word ou un autre format. Par contre, en primaire, je sais pas, ça me...
C'est un peu tôt, tu trouves ça trop
ouais,
tôt?
Ouais, je me dis que quand je vois le niveau de français de mes collègues, tu vois, qui ont des diplômes à n'en plus finir, mais
mince, tu te dis, ils auraient mieux fait d'avoir plus de cours de français et moins d'informatique.
Ah ouais, parce que quand t'es ingénieur, docteur, tout ce que tu veux, mais que tu mélanges E et ER dans les grammaires, bon, c'est une anecdote, hein, c'est une anecdote, mais je le vois tous les jours,
oui,
tu vois.
Mais complètement.
Et quand j'entends, voilà, ma belle famille, Instit, qui dit que le niveau est plus bas qu'avant,
ah oui, mais
mince, ça me pique les oreilles.
Mais après, il y a aussi, je pense, une notion de... On aimerait l'initier le plus jeune possible parce que c'est le plus jeune possible qu'on apprend le mieux, que c'est plus simple pour l'enfant. En vrai, nous, en tant que bibliothécaire, on a pris les iPads chez nous sur notre temps perso, puis on s'est formé parce qu'en fait, j'en avais jamais touché de ma vie. Voilà, on les a donnés et en deux secondes, les gamins étaient au même niveau que nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une facilité dans l'apprentissage qui est indéniable. Alors après, c'est pas non plus la raison pour y fourrer tout ce qu'on peut, je suis d'accord. Mais je pense aussi que on essaye, enfin voilà, en tant que personne extérieure du ministère de la Culture, on essaye d'entrevoir des solutions les meilleures. Maintenant, clairement, ce serait tout à revoir. Et...
Mais en fait, ce que tu disais, d'une certaine manière, si je résume, sous ton contrôle, c'est, c'est de toute façon, il y a une situation qui est la suivante, c'est que Internet existe, les iPads existent, que les gamins, de toute façon, ils sont confrontés d'une manière ou d'une autre. Donc, bah, on accompagne ce mouvement du mieux qu'on peut. On les aide à apprendre le mieux
possible.
Enfants
et parents, oui.
Enfants et parents. Mais en gros, y a, quelque part, il n'y a pas eu de réflexion. Bon, je ne dis pas que c'est la petite bibliothèque de l'avoir ou ni à l'éducation nationale, mais il n'y a pas eu de réflexion avant des impacts possibles de ces technologies. Elles sont là, de fait. Et donc, on fait ce qu'on peut, on fait au mieux pour qu'elles soient bien assimilées. Ou pour
en fait, il y a eu des réflexions. Mais des réflexions pas forcément poussées jusqu'où il fallait. C'est-à-dire qu'on va reprendre un terme hyper connu, tout le monde dit que les générations qui sont nées à partir des années fin 90, début 2000 sont des digital natives. Je traduis.
Nées avec
le numérique, sous-entendu, sachant faire avec le numérique. Mmh. Ok, ce à quoi moi, naïvement, je débarque en bibliothèque jeunesse, je mets un enfant devant un ordinateur et j'attends qu'il me montre. Et effectivement, c'est un gamin qui surfe beaucoup mieux que moi, qui a une facilité avec les outils qu'il connaît, en revanche. Hein, donc, c'est-à-dire, je ne veux pas citer de nom, mais on va en citer Google. C'est-à-dire qu'un enfant dans Google, dans tout ce qu'il a de... dans Hotmail, dans MSN pour les générations, des trucs hyper connus qui sont des phénomènes de génération, se débrouille beaucoup mieux que moi et va me donner un bon nombre de leçons. Ok, maintenant j'ouvre un Word. J'écris une phrase, je la mets en gras et je la centre. Eh bien, je suis un magicien pour un enfant. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va lui servir en tant que divertissement et loisir, c'est-à-dire tout ce qui va lui être inculqué par des pairs ou en auto-formation, parce que la nécessité de devoir le faire par rapport aux copains est grande, il va y arriver. Maintenant, quelque chose de plus technique et vraiment spécifique à une tâche, c'est-à-dire, on en reparle, mais la lettre de motivation, le CV, un courrier, voilà... Et eh bien là, il va être désœuvré parce que c'est quelque chose qu'il ne verra pas avant l'âge de... Enfin, ou en tout cas, il n'aura pas la... Il ne sera pas obligé de le faire avant l'âge de 16-18 ans. Et le problème, c'est que quand il va s'y confronter pour la première fois, ben, quand on n'en a jamais fait un Word, ce n'est pas facile en fait.
Ben non, c'est un outil qui demande d'être maîtrisé.
Et je parle d'un Word parce que c'est un truc bateau, mais un tableur... Ce qui est encore pire, on y rend des formules, des fois ça, on a l'impression que ça marche tout seul contre notre propre volonté, enfin voilà. Et voilà. Donc c'est-à-dire qu'on est parti d'un constat qui est, l'enfant est né dedans, il se débrouille tout seul. Sauf que maintenant, avec 15 ans de recul, on se dit alors en fait oui, il sait chercher n'importe quelle vidéo sur YouTube, il sait télécharger n'importe quelle musique légalement, pas légalement, il vous donnera toutes les techniques. Combine. Sauf que le problème, sur un truc où il n'a pas été amené à aller tout seul, eh ben, il est encore désœuvré. Comme moi, je n'ai jamais fait d'équation, j'ai jamais fait... Voilà. Et le jour où on m'a posé devant une équation à deux inconnus, ben ouais, j'ai demandé comment on faisait, oui. Mmh. Et donc, effectivement, et maintenant, on se retrouve devant des enfants qui ne savent pas faire tout seul et dont l'école, les parents et toute autre institution, je diabolise personne, c'est dit... Ils sont nés avec, ils savent faire, même mieux que nous, donc on n'a rien à leur enseigner.
On les laisse se débrouiller, en gros, avec ça qu'ils connaissent de fait. On les a laissés. Et voilà. Mmh. Mais, oui.
Mais c'est en train de changer, ça, puisqu'on se rend compte que les jeunes n'y arrivent plus.
Bah, on s'en rend compte, alors, du côté éducation, etc. Je ne sais pas, juste une anecdote. Je ne sais pas si vous avez vu cette pub pour... alors, je vais citer une marque, mais on s'en fiche. Microsoft PowerPoint. Sur la télé, je sais pas, je regarde pas la télé, mais sur internet en tout cas elle était diffusée, et en gros bon, c'était la pub issue de, bien sûr, de Microsoft, donc ils allaient pas se tirer une balle dans le pied, mais en gros ce qu'ils disaient dans leur pub en substance, c'était, et donc la cible était clairement les jeunes, j'entends bac et antérieur, donc de la primaire jusqu'au bac, et le message était impressionnez vos profs, impressionnez vos copains avec vos super présentation PowerPoint, et c'est ça qui va vous faire avoir des bonnes notes en histoire, en maths, etc. C'est-à-dire, utiliser cet outil, ça va vous rendre meilleur, ça va vous faire devenir un super élève. Donc, le message, et je trouve que ce message est très révélateur d'une certaine façon de penser dans notre société actuelle, c'est utiliser la technologie, ça vous aidera, ça vous rendra meilleur, ça vous rendra plus intelligent, vous aurez plus de connaissances, vous saurez mieux faire les choses. Mais ce que tu disais, c'est finalement, les gamins, tu les formes pas à PowerPoint ou à n'importe quel autre logiciel, ils l'achètent, ok, je vais avoir des super notes, ah bah non, mince, je sais pas utiliser, je sais pas quoi en faire, etc.
Et cet exemple de PowerPoint, tu le retrouves dans le corps enseignant, tu le retrouves en conférence. Moi, j'ai fait des conférences... Enfin, voilà, subventionné par des gens très sérieux, avec des gens très sérieux. Et quand il ouvre le PowerPoint, le monsieur intervenant, eh ben, on se dit qu'on va s'ennuyer. Parce qu'en fait, il ne sait pas faire un PowerPoint. Et donc, je veux dire... Mais d'un autre côté, si on était amené à lui faire la remarque, il dirait, ben oui, j'ai pas été formé. Mais on n'a pas du tout cette même réflexion, et on le comprendrait, l'argument de cet intervenant. Mais on n'a pas du tout la même façon de réfléchir avec un enfant. Ben, alors que c'est pareil.
Cette réflexion, elle vient quand même, parce que depuis le B2I2E, voilà, c'est arrivé, je ne sais pas quand, mais c'est récent. Ça répond en gros aux besoins que tu dis. C'est ce qui m'arrache un peu le cœur, hein, je dois l'avouer. C'est dire la société elle évolue de toute façon de son côté, et il faut que les enfants y soient adaptés, quoi. C'est-à-dire, voilà, si tu sais pas faire un CV sous Word, si tu sais pas faire une recherche, tu vas être un plouc et tu trouveras pas de boulot. Et donc, il faut que l'éducation te fournisse les moyens de réussir à remplir ces tâches.
Ouais, alors en fait, je dis pas que c'est la manière d'intervenir et... Je dis pas que l'État, ou en tout cas que l'institution, devrait former à ça. Je dis juste qu'il y a une adéquation entre ce qu'on apprend aux enfants et ce qu'on leur demande au sortir de l'école. Après, dans mon boulot en tout cas, je cherche pas à diaboliser qui des deux côtés a tort. Mmh. Je m'en fiche. Je palie ce manque, comme je peux, comme on peut, comme avec les moyens qu'on a. Maintenant, je dis pas qu'il faut pas repenser la société. Je dis juste que on est devant un constat qu'il est ce qu'il est, on dit toujours, quand il y a un changement, il y a une génération manquée. Ben quelque part, notre boulot, c'est qu'il y ait pas de génération manquée. Après, je dis pas du tout qu'il faut pas remettre en cause le système dans lequel on vit. Ça, je vais le faire d'un côté plus personnel, mais voilà, dans mon boulot, de par ma fonction de bibliothécaire, c'est pas ma fonction.
Ouais. Non, mais je comprends que effectivement, il y a ces besoins dans la société. Après, ça va se faire au détriment d'autres choses. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend actuellement qui sont bonnes. Par exemple, quand je vois que l'histoire géo était supprimée en terminale à la place de, d'ailleurs, ils ont introduit l'informatique. Alors, je sais pas si c'est exactement pour mettre de l'informatique qu'ils ont supprimé l'histoire géo. Pour moi, l'histoire géo, c'est important. Mais bon, je suis un vieux ringard. Hein.
Non, je pense que...
Je crois qu'on est trop rabat-joie, en fait.
Ouais,
mais je pense que quand ils ont parlé d'enlever l'histoire géo, on était une grosse, grosse bande de rabat-joie, parce qu'en fait, personne n'a vraiment compris. On est là à dire depuis des générations, à se targuer que la France a une grande histoire, une belle histoire, qu'il faut en tirer des leçons. Et bizarrement, finalement, ça a quand même longtemps été le discours officiel, quoi. Pour avoir fait des tours dans des pays qui avaient moins d'histoire, on nous admire pour ça, on a une grande histoire, on en tire des leçons, et finalement, c'est tellement chouette qu'on va l'enlever, parce que vraiment, nos enfants savent trop bien. Mais en fait, non.
Et oui, ça...
Mais après, je pense que de toute façon, si on rentre dans ce débat-là, on va arriver à aussi se buter contre le manque de personnel, le manque de temps, le manque de moyens, le manque... Et ça, on n'a pas envie d'en entendre parler. Donc on se dit, ok, on va rajouter des trucs, et puis comme c'est logique, on va en enlever d'autres, et on va pas remettre en cause le système. Je pense que c'est aussi quelque part une
tare du système. Il y a quelque chose à faire.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Ah ouais, mais moi je suis pas dans l'éducation nationale, hein, pas de problème.
Moi non plus.
Sur ces bonnes paroles, on va faire une petite coupure musicale avant d'enchaîner la dernière partie de l'émission. Je vous rappelle juste avant le numéro de l'émission, encore une fois, le 01 43 71 89 40. Et à tout de suite. You
Radio Libertaire, vous venez d'écouter Brad Sucks, Dropping Out of School. Et donc, c'est le monde merveilleux du travail du syndicat de l'informatique de la CNT.
Voilà, on embraye la troisième partie sur le thème de ce soir qui est l'informatique dans l'éducation. Donc, c'est pas l'enseignement de l'informatique, c'est comment les nouvelles technologies influencent l'enseignement et l'instruction. On a parlé beaucoup des écoles et à la fois des bibliothèques grâce à Morgane, notre invité spécial de ce soir. Et alors il y a une chose qui nous a un peu fait tilter Guillaume et moi pendant dans le discours de Morgane, c'est que tu comparais, tu disais que ce soit un support numérique ou un support papier, l'information est plus ou moins la même. Je fais un raccourci.
Oui, ok. Partons là-dessus.
Un peu près. Et un auteur qu'on aime bien, Guillaume et moi, c'est Cédric Biagini, dont d'ailleurs, on n'a aucun lien commercial avec lui, hein, mais je vous conseille son dernier livre, L'emprise numérique.
50% sur toutes les ventes. L'échec à l'adresse habituelle, Cédric, merci.
Et voilà, dans son dernier livre, il y a la partie là, d'ailleurs, la plus convaincante, qui est sur la différence entre le livre numérique. La lecture sur support papier et la lecture sur Internet avec des liens hypertextes. Et la thèse que défend Cédric Biagini, c'est dire que la lecture sur Internet, par exemple sur la Wikipédia, qui est un site où il y a beaucoup de liens hypertextes, donc les liens qui vous permettent de naviguer d'une page à l'autre, elle est fondamentalement différente en termes d'attention du lecteur et d'assimilation des connaissances que la lecture d'un support papier. Et donc le support papier incite à une lecture linéaire, profonde et approfondie, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'étudier un sujet dans ses détails en allant au fond des choses, alors que la lecture sur Internet avec des liens hypertextes invite à papillonner un peu de sujet en sujet.
Oui, mais comme tout Internet d'ailleurs, je trouve, enfin, ça je l'ai vraiment constaté à titre personnel dans ma façon d'utiliser Internet, qui, je ne sais pas si elle est représentative, mais il me semble qu'elle est plutôt représentative. C'est vrai qu'on va, déjà on va avoir souvent plusieurs fenêtres ouvertes, donc on va avoir un peu une vidéo qui est en train de se charger, et puis je suis en train de consulter mes courriels, et puis je suis en train de lire un article sur n'importe quoi, un journal en ligne ou ce qu'on veut, et puis ma vidéo a fini de se charger, ok je regarde ma vidéo, hop je la finis, paf je repasse sur mon article que j'avais pas fini. On est tout le temps comme ça dans
ce... du multitâche.
C'est du multitâche tout le temps, mais en fait c'est vrai que intellectuellement je sens que c'est très différent que de me prendre mon journal ou mon livre et d'être dedans. Je dis pas que c'est forcément, je sais pas, hein. J'ai pas fait d'études neurologiques, etc., savoir si c'est pire ou mieux, mais que c'est différent, ça, c'est indéniable. C'est différent. Après.
Je te laisse la parole, Morgane. Hein. Je continue ce que dit Guillaume, c'est que pour ce que j'ai vu, en tout cas, hein, les études neurologiques disent que le multitâche, vraiment, on fait pas. Le cerveau humain, il fait pas. Si tu fais plusieurs tâches à la fois, tu changes de contexte. Non, mais même les femmes, ça marche pas.
Je crois que c'est la légende.
Et tu perds vraiment de l'information entre chaque tâche que tu fais.
Et quand je disais, je sais pas si c'est mieux ou pire, c'était...
Ouais, il y avait un sous-entendu. Mais je veux dire,
c'est quand même mon avis.
Apparemment, le sous-entendu est vraiment étayé par les études scientifiques et neurologiques. Il n'y a pas photo, quoi. Ouais. Et à titre personnel, j'ai exactement eu la même expérience quand j'ai commencé à travailler 8 heures par jour devant un écran, où ça clignotait partout, les mails à droite, le taf à gauche. Et j'ai complètement arrêté ça. Maintenant, il n'y a plus rien qui clignote, il n'y a plus de mails en temps réel, parce que vraiment, je sens complètement la différence sur ma manière de penser et mon attention.
Ouais, même, ne serait-ce que sur le stress, je crois, moi j'ai déjà ressenti ça, quand tu es au boulot, que tu as ta boîte mail qui est ouverte, parce que tu sais que tu peux recevoir à tout moment un mail d'un collègue, du patron, n'importe quoi, que tu as, mettons, ton logiciel, si tu es en train de travailler sur un logiciel, ou ton texte, etc., t'es tout le temps en train de naviguer. Alors, est-ce que j'ai reçu un nouveau mail? Non, j'ai rien. Ok, je repasse à mon texte. J'étais en train d'écrire quoi déjà? Ah oui, c'était ça. Hop, tadada, je retape. Le téléphone qui sonne. Ah oui, allô, c'est pourquoi? Blab. Je repasse. Ah tiens, j'ai reçu un mail. C'est quoi? Ah, il faut que je fasse ça. Ah, j'étais en train d'écrire quoi? Ah oui, c'était ça. Et des fois, en fait, dans la tête, je pense, se crée une liste de tâches de fou. On se dit, putain, mais j'ai plein de trucs à faire parce que je suis sollicité dans tous les sens. et j'y arrive pas, quoi. J'arrive pas à poser mon cerveau qui, visiblement, alors je sais pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, il a pas l'air d'être fait pour subir ces sollicitations multiples dont tu parlais. Et c'est vrai que ça, à mon avis, hein, ça contribue. Je dis pas que c'est la seule source, je dis pas que c'est le mal incarné, mais ça doit contribuer à une part de stress dans l'environnement du travail. Enfin, pas uniquement d'ailleurs, mais entre autres dans l'environnement du travail. Et je crois que Morgane, t'es pas d'accord.
Non, alors en fait, je vais simplement poser une question. C'est-à-dire que, ok, vous avez vu que travailler sur l'écran, etc. Ok. Est-ce que pour autant, vous avez arrêté de lire du papier?
Non. Ah non, non.
Moi je lis toujours, je lis beaucoup de papier, effectivement.
Okay. Moi aussi. Journal,
alors, en fait,
mais alors, je lisais déjà du papier avant l'ordinateur, d'ailleurs.
On est d'accord. Hein? Donc en fait, ça n'a rien changé à ta pratique de lecture?
Non.
Voilà. Eh ben en fait, mon constat, il est là. C'est-à-dire que moi, je ne parle pas de l'environnement de travail, etc. Moi, je suis purement dans tout ce qui est lecture-plaisir et encore plus, c'est-à-dire pas simplement la lecture pour le plaisir, mais les histoires, qu'elles soient lues, entendues, contées, encore une fois, etc. De ce point de vue-là, en fait, de la même manière que vous, les enfants ne changent pas. C'est-à-dire que s'ils ont une pratique où, de temps en temps, ils adorent faire du séquentiel avec « je clique, je reviens, je machin, j'écoute de la musique et puis je fais les devoirs en même temps parce que si, maman, ça marche. » Et voilà. Autant, en même temps, on va les retrouver plongés dans une BD ou dans un roman ou voilà, parce qu'à ce moment-là, ils auront besoin de ça. Je ne suis pas en train d'éluder le problème. Je dis juste que moi, ma vision professionnelle, elle se penche que sur cet aspect-là. Pour le côté... autre que les histoires plaisir, je peux pas vous répondre. Je suis un peu comme vous.
Ben, moi, j'ai l'intuition que c'est beaucoup plus facile de passer d'un mode de je lis des bouquins à une utilisation de, disons, de lecture fractionnée, par exemple sur Internet. Ça, que l'inverse.
En fait,
tu vois, si t'as pas eu l'habitude de cette lecture approfondie, j'imagine que c'est difficile de lire un bouquin parce que tu dois te dire mince, c'est pas fun, ça bouge pas, etc.
Alors,
caricature, hein.
Ouais. Alors après, pour répondre à ça aussi, deux choses. Premièrement, vous parlez de vos expériences perso, je vais m'y mettre. Moi, j'étais pas dans le numérique du tout, quoi. J'ai un parcours hyper classique avec des lettres modernes, de l'éducation au métier d'instit, des formations avec les gamins, etc. Et on m'a propulsé, enfin, j'ai signé dans une bibliothèque où on fait du numérique. Ok, qu'à cela ne tienne, je le fais. J'adore ça. J'adore toucher des nouveaux trucs. Et en fait, là où vous dites que c'était bizarre pour vous c'était plus difficile de revenir après avoir fait du séquentiel à une lecture linéaire, bah c'était plus compliqué pour moi l'inverse. C'est-à-dire que la lecture séquentielle, j'arrivais à le faire, mais c'était pas une aisance de travail. Et retourner après dans la lecture linéaire, c'était aussi compliqué.
Tu veux dire la lecture séquentielle, t'appelles ça sur...
sur l'ordinateur, le d'accord. Fait de lire en séquence, que ce soit de séquencer son ouais, action, etc. Et en fait, pendant très longtemps, quand j'ai commencé à bosser dans le numérique, en fait, j'ai plus réussi à lire des bouquins.
Ok, mais ça ça soutient notre thèse.
Mais soutient la thèse d'un moment où on a envie de quelque chose et d'un autre moment où on a envie d'autre chose. Ça veut pas pour autant dire que j'ai arrêté à vie de lire quoi que ce soit. Et ça veut pas pour autant dire que j'adore le boulot où je fais 3 secondes par tâche. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on doit s'adapter déjà. Et après, à nous de voir nos intérêts. C'est-à-dire que pour nous, en tout cas, on voit, en tout cas chez les enfants, prendre du plaisir à lire et prendre du plaisir à faire des actions séquentielles. Peu importe... voilà. En revanche, là où je vais mettre un bémol, c'est que de notre offre numérique, on a proscrit tout ce qui pouvait ressembler à du papier. Je m'explique. Quand on a eu des iPads, tout le monde nous a dit « Ouais, vous allez mettre des iBooks. C'est trop bien, vous allez gagner de la place, vous allez gagner du budget. » Alors en fait, non. Parce que si je peux le faire avec du papier, j'ai aucun intérêt à le faire avec du numérique.
D'accord.
Tout ce qu'on met dans nos tablettes, c'est des choses qui sont pas du simili de papier.
C'est pas, ouais.
Donc on n'a pas d'iBook, on a des livres numériques mais qui vont présenter, je sais pas, une ambiance audio ou une ambiance d'animation qui est en adéquation avec la lecture, mais pas.
T'as du contenu supplémentaire.
Exactement. Et en aucun cas on va. Alors donc je peux pas dire sur exactement la même action, c'est-à-dire lire des lettres noires sur du papier entre guillemets blanc, mais sur un support blanc. Je ne peux pas dire entre un iPad par exemple ou une tablette quelle qu'elle soit ou même une liseuse et un vrai bouquin ce que ça peut faire, puisque ça, c'est une expérience qu'on n'a pas choisi de mener.
D'accord. Bah, moi, de mes connaissances, c'est que la lecture, si c'est sur un e-book, le problème, c'est le lien, en fait. C'est l'hypertexte. Donc, si tu es sur un support, disons, liseuse, où tu lis un PDF classique, sans lien, je crois pas qu'il y ait vraiment une différence de concentration neurologique, etc.
Peut-être une différence ophtalmique après sur l'œil, bon, comme il reçoit la lumière. Ouais. Bon, ça, ce sera un truc de médecin à voir. Mais...
Et puis même une différence de comportement. C'est-à-dire que lire au petit-déj d'une seule main pendant que vous faites autre chose... Enfin, je suis très terre-à-terre là, mais parmi les bibliothécaires chez nous, on en a qu'on... Malheur qu'on achetait des liseuses.
Ah, mais moi, je fais ça avec un bouquin.
Et ben, en fait, il y a des gens qui en fait, font des trucs avec la liseuse qu'ils n'auraient jamais fait avec un bouquin.
D'accord.
Et ne serait-ce que pouvoir lire d'une main, ce qui est pas hyper compliqué, hein, faut pas non plus avoir fait un master, mais qui est pas forcément pratique, tout simplement avec, je sais pas...
Ça dépend du bouquin.
Un gros volume de 800 pages, et même à trimballer dans un sac, quel qu'il soit, ok, avec une liseuse, on peut avoir 3 fois 800 pages sans problème, et qui trouvent du plaisir. Et puis il y a des gens qui vont être vraiment des réacs du papier, et qui vont dire, mais le sensuel, mais l'odeur, mais tout ça. Et
on...
bah, voilà,
après, là, c'est plus un côté subjectif de, moi, je préfère le papier parce que l'odeur, machin. Moi,
oui,
je préfère
mais finalement,
le numérique parce que
finalement,
ça
tout
place,
est
machin.
Subjectif. Quand vous dites que vous avez eu du mal à passer de la lecture hyperlien à de la lecture
subjectif.
Linéaire, finalement, les gamins vont vous dire, ouais, mais moi, qui suis née avec la lecture comme ça, en hyperlien séquentiel et tout, bah, je me sens vachement plus à l'aise, parce que c'est une manière de
oui.
se construire.
Oui, après, il y a quand même des études... Bon. Qui mériteraient d'être plus faites dans le temps, etc., qui ont été faites sur le taux de concentration des gens qui ont plus l'habitude de la lecture linéaire par rapport à la lecture fractionnée, qui sont quand même assez révélatrices. Sur la télévision, par exemple, qui pour moi est le support de communication, entre guillemets, le pire qui existe, il y a des études qui ont été faites sur des enfants, notamment des jeunes enfants. Alors, je suis un peu embêté parce que j'ai plus une source très fiable à citer, mais grosso modo, l'étude, c'était sur le même panel d'enfants, c'est-à-dire même âge, alors je crois que c'était 3-5 ans ou 3-6 ans,
oui,
grosso modo. Ceux qui passent plus de X heures devant la télé par semaine et ceux qui passent moins de X heures. Alors, je m'excuse hein, pour
la
plus précision des informations, mais on voyait en fait les dessins que faisaient les enfants. Simple, les dessins, je dessine un bonhomme, je dessine une maison, machin. Et ceux qui passaient plus de temps devant la télévision faisaient des dessins beaucoup plus... Pas, comment dire...
Élaborés.
Non, justement, ceux qui passaient le plus de temps devant la télévision faisaient des dessins
naïf.
Beaucoup moins élaborés. C'est-à-dire, je faisais un rond pour le bonhomme et puis 4 barres qui partaient sur le côté pour les pieds et les mains. Et ceux qui passaient moins de temps devant la télévision faisaient des dessins où déjà, il y avait la construction du corps, les bras qui partaient du corps, les jambes qui partaient du corps. Alors, et donc, sur le développement purement neurologique... Le simple fait d'être devant un support qui diffusait de l'information et où la réception de l'information est purement passive, ce qui est la télévision, on est passif devant la télévision, et d'ailleurs il y a eu des études neurologiques sur l'activité du cerveau devant un livre, durant une conversation, devant la télévision, et c'est clair que devant la télévision, tous les... Comment ça s'appelle ces appareils-là qui mesurent l'activité neurologique en temps réel ? Enfin bref, peu importe. Ça a un nom technique, mais peu importe. On voit bien que pendant qu'on est devant la télévision, le cerveau est beaucoup plus au repos, beaucoup moins actif que quand on est en train de lire. Oui, l'activité cérébrale est beaucoup plus est inférieure parce que, évidemment, et même devant une activité manuelle, par exemple, si on est en train de réparer son robinet, le cerveau est plus actif que quand on est en train de regarder la télévision parce qu'il y a un effort, il y a une concentration, il y a une réflexion, même pour des tâches simples. Et c'est ça que je me pose devant des iPads qui t'envoient du son, de la musique, devant des différents supports. Je me pose la question, c'est tout.
Ouais, mais peut-être que ça allait dire Morgane, mais c'est que la télévision, c'est vraiment le... Bon, je pense que c'est vraiment le pire, parce que c'est vraiment le
oui,
média où tu t'es récepteur, t'es super passif. Et par contre, ce que m'ont dit les différents universitaires que j'ai contactés ou ce que j'ai collecté, c'est qu'avec l'introduction... Pour simplifier des ordinateurs dans la classe, il y a deux choses qui reviennent. Il y a l'effet que les élèves sont un peu excités de manipuler un ordinateur.
La nouveauté, quoi.
La nouveauté. Alors, il y a deux retours. Il y a les enfants sont plus attentifs parce que voilà, ils sont devant un ordi. Alors après, c'est modéré de deux manières. Alors si l'ordinateur, comment dire, toutes les applications sont disponibles, si Internet est disponible, alors là par contre c'est mort parce que
ça part en sucette.
Ça part en sucette, exactement. Les élèves vont aller surfer sur le web direct. Et là, c'est très mauvais. Par contre, sur quand le contenu est contrôlé, que ce soit, il y a une seule application avec un exo à faire. Mmh. Dans ce cas-là,
ils peuvent pas se disperser.
Ils peuvent pas se disperser. Alors, il y a deux choses. Quand il y a l'introduction de la nouveauté, évidemment, ça marche mieux. Les élèves sont plus attentifs. Ça, c'est ce que disent les profs. Et apparemment, ils sont très forts pour évaluer le niveau d'attention des élèves. Il n'y a pas besoin de faire des mesures. Il suffit de demander au prof et il va te donner la bonne réponse. Alors après, par contre, c'est modéré par l'habitude. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, que c'est plus la nouveauté, ça se tasse.
Oui, bah,
pas grand-chose de surprenant, en fait.
Mais... oui. Bon, après, oui, du coup, c'est peut-être. Enfin, moi, ce que j'aimerais, idéalement, c'est qu'il y ait. Avant qu'on introduise, en fait, dans les classes ou n'importe où, des nouveaux méthodes, de nouveaux outils, que ce soit technologique ou pas, d'ailleurs, c'est qu'il y ait une réflexion, en fait. C'est qu'il y ait des études, qu'on se pose la question, déjà. Est-ce que ça peut être nocif ou pas de tel ou tel point de vue ? Et surtout, est-ce que ça apporte quelque chose en plus ou pas ? Parce que si ça apporte rien quelque part, que c'est juste différent mais sans que l'élève soit plus formé, plus de connaissances, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'exploiter des Chinois qui vont fabriquer les tablettes à votre bonheur ? Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question.
C'est vrai que c'est
une vraie question. Je suis désolé. Pour le coup, je suis désolé, quand on sait ce qui se passe à Foxconn, les gens qui fabriquent les tablettes, qui fabriquent les ordis, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des centaines d'ordinateurs pour nos élèves si finalement ça leur apporte rien ? Enfin voilà, c'est une question, je suis désolé.
Morgane, tu vas intervenir.
De société.
Oui, mais en fait, la seule chose que je voudrais répondre à ça, c'est que effectivement, ce serait quelque chose d'hyper intéressant de réfléchir avant de mettre des choses dans des écoles. Sauf qu'en fait, là, on en est 10 ans plus tard, quoi. On est où on l'exige des enfants, donc... On le met dans les écoles, donc on voit au jour le jour ce que ça fait. On est déjà trop loin avancé dans ce qu'on demande aux enfants. D'accord. Donc en fait, au bout d'un moment, moi je veux bien. Chez moi, j'ai pas de télé ou très peu. Je suis sur l'ordinateur pour le boulot et encore. Point. Mais n'empêche que dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on demande à la population. Donc aujourd'hui, on peut plus dire « Ah oui, mais alors ça aurait été bien, il y a 10 ans, de voir si on le mettait ou pas dans les écoles. » Ouais, ok, moi aussi je suis d'accord. Sauf qu'en fait, là, on est déjà...
Oui, mais
c'est déjà trop tard,
ça,
quoi.
Je suis tout à fait d'accord. Mais après, si tu rentres dans cette logique, tu rentres dans une problématique qui serait une problématique d'ONG ou de Resto du Cœur, de dire « On fait de l'urgence. » Et je suis d'accord, il faut de l'urgence
mais
parce
oui,
qu'il y a
mais...
des gens qui ont faim et qui sont dans des situations sanitaires précaires.
Et on fait de l'urgence parce qu'il y a des gamins de 16 ans qui cherchent du boulot et
oui,
qui ne savent pas faire...
Mais c'est juste pour dire que ça ne suffira pas, l'urgence.
Ah, mais on... je
parce
pense que là...
Parce que si on ne réfléchit pas et qu'on fait tout dans l'urgence, de « on colmate les brèches au fur et à mesure où elles s'ouvrent »,
C'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que nous on est en ce que tu pourrais appeler du boulot d'urgence, c'est-à-dire que nous sur le terrain on pallie les manques qu'on constate. Maintenant, c'est ce que je disais tout à l'heure, je remets pas en cause le fait qu'il faudrait une réflexion plus large, qu'il faudrait revoir comment on le rentre ou pas dans l'éducation, comment machin. Mais au bout d'un moment, voilà, moi j'ai une demande, j'y réponds. D'un point de vue professionnel. Après, effectivement, que ça n'exclut pas, voire même ça encourage une réflexion plus globale à venir.
Pas indispensable.
Maintenant, c'est pas mon boulot.
Non, non, c'est sûr. Après, chacun fait aussi... on fait tous comme on peut avec ce qu'on a, c'est sûr. Ce qui pourra servir de conclusion, peu ou prou.
Ouais, ça amène la prochaine fois à discuter sur qu'est-ce qu'on pourrait prévoir pendant les 10 prochaines années.
Voilà, ce serait pas
mal. Pour pas faire la même émission dans 10 ans, mais j'ai pas d'idée encore. Mais...
Bon, en conclusion, je vais quand même remercier Elsa qui nous a appelé tout à l'heure pour faire une remarque. Alors malheureusement, on manque un petit peu de temps pour la citer et pour que je puisse redire ce qu'elle a dit. Mais en tout cas, merci d'avoir appelé, d'avoir contribué. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour cette émission. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission passionnante, pleine de rebondissements. Et on vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée.
Je rappelle quand même le numéro, enfin non pas le numéro, mais notre site internet. Donc c'est le www.cnt-f.org/sii ou syndicat-informatique.fr. Voilà.
Plus simple.
On se retrouve le mois prochain.